Dans Surveiller et punir, Michel Foucault considère la prison comme un instrument de discipline. Mais quand on connaît les taux de surpopulation, on se demande bien comment on peut organiser la circulation, l'emploi du temps et les activités des détenus.
Ben oui, mais en fait, il faut vraiment dépasser cette impression de débordement, de trop-plein. En fait, quand on arrive en prison, on va d'abord au greffe. Et puis ensuite, on passe en général quelques temps dans une cellule de passage avant d'être affecté à un quartier de détention et à des cellules. Mmh. Et en fait, l'affectation à un quartier, elle dépend de certains critères, hein, l'âge, le sexe, éventuellement le motif d'incarcération. Mais il va y avoir aussi un autre facteur, c'est sa capacité à négocier son affectation. Et éventuellement, d'ailleurs, sa capacité à payer. Si je prends l'exemple de la prison centrale de Yaoundé, il y a certains détenus qui vont être affectés à ce qu'on appelle le haut de la prison, les quartiers dits des responsables, c'est-à-dire là où on va trouver des fonctionnaires, parfois d'anciens directeurs de grandes entreprises. Et puis, évidemment, ça s'oppose à d'autres quartiers, éventuellement ceux qui ont eu plus de difficultés à négocier, tous ces quartiers qu'on appelle le bas de la prison, où on va trouver des détenus démunis, mais aussi hein, certains qui sont assez aguerris à l'univers carcéral.
Et ensuite, comment s'organise concrètement la vie dans la prison ?
Ben, il faut savoir non seulement négocier finalement son quartier d'affectation et sa cellule, mais il faut se dire que dans ces situations de surpopulation que tu mentionnais, il va y avoir aussi l'enjeu d'avoir accès à un lit, et, ou plus exactement à un sommier. Et si je prends l'exemple du Cameroun, le sommier, c'est le mandat. Et si on peut négocier d'avoir un mandat, on devient un mandataire. Et à l'inverse, sinon, on est un dormataire, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Mmh.
Ça veut dire en tout cas qu'il y a des hiérarchies dans la prison.
Oui, il y a d'abord des inégalités. Hein. Faire sa prison, comme disent certains détenus, ça dépend de son origine sociale. On parlait des lits, mais il y a aussi la question de l'alimentation. Mmh. C'est ce dont témoigne un ancien détenu de la prison de Mpimba au Burundi, et je propose qu'on l'écoute.
Entendu.
En fait, donc, il y a des inégalités, on vient de le voir, et il y a aussi des hiérarchies, hein, tu le disais. Et souvent, la manière dont ces hiérarchies sont mises en mots donne lieu, enfin fait écho à certains univers, et par exemple l'univers militaire. C'est là aussi ce dont témoigne cet ancien détenu de Mpimba au Burundi. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a des formes de délégation d'autorité à certains détenus. Il y a des détenus qui sont en charge de la surveillance de la cour, des quartiers, des cellules. Ils gèrent la répartition des lits, je l'ai mentionné. Ils organisent la participation de tous, hein, le nettoyage des cellules, des parties communes. Sauf que là encore, hein, tout le monde ne participe pas à égalité. Il y a ceux qui peuvent payer et n'ont plus rien à faire. Ils ont parfois même des postes de télévision. Et puis en face, il y a ceux qui doivent payer des droits pour regarder la télévision. Et puis quand ils n'ont pas d'argent, ben, ils font certaines choses, comme par exemple hein, le ménage. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les gardiens ne connaissent pas tous les détenus, d'où ces formes de délégation.
Justement, les gardiens, ils ont l'air bien absents de cette description.
En fait, il faut réfléchir à plusieurs points. Première chose, c'est qui sont ces gardiens. On est dans des contextes où souvent, il n'y a pas beaucoup d'emplois salariés. C'est difficile d'entrer dans la fonction publique. Donc, s'il y a un concours pour devenir gardien et qu'on le réussit, ben, on ne va pas hésiter. Alors que finalement, c'est peut-être qu'un métier qu'on choisit par défaut. Et de fait, hein, les gardiens, ils sont nombreux à se sentir déconsidérés, notamment par rapport aux policiers, aux militaires.
Oui, tous ceux qu'on appelle des corps habillés.
C'est ça, oui.
Mais alors, justement, comment se déroule la carrière de ces gardiens?
Alors, selon eux, elle se déroule pas bien. Ils disent que leur salaire est faible, que les augmentations, elles, sont rares et puis pas très marquantes. Alors, certains disent que c'est très difficile d'être mobile sur le plan professionnel. D'autres, à l'inverse, vont dire qu'ils sont fréquemment mutés et qu'au bout d'un moment, bah, la famille ne suit plus. Il y a aussi des gardiens qui disent « moi, je veux surtout pas être affecté dans une prison en milieu rural parce qu'il faut amener les détenus au champ et qu'il y a un risque d'évasion ». Il y en a d'autres qui veulent être affectés dans des grandes prisons urbaines parce que c'est éventuellement là qu'on va retrouver par moment hein, des personnes importantes, d'anciens directeurs généraux, des ministres. Ils se disent que peut-être là, ça va ouvrir leur réseau de connaissances, donner lieu à de la redistribution de faveurs. Donc on voit au passage que les gardiens, ils participent à ces formes de catégorisation des détenus. Hein. Mais d'ailleurs, ils se catégorisent aussi entre eux, les gardiens. Certains ne veulent pas du tout fouiller les quartiers parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont devoir recourir à la force. Il y en a certains qui sont beaucoup plus à l'aise au greffe. Il y a des gardiens, des gardiennes hein, qui deviennent des conseillers juridiques hein, au bénéfice des détenus. Et puis, ils le disent, hein, ils sont à l'épreuve de la corruption. Alors après, hein, il y a aussi justement des gardiens qui disent que certains de leurs pairs sont violents. Des détenus vont aussi dénoncer la violence de certains gardiens. On peut pas taire hein, la dimension coercitive aussi de la prison. Il y a les cellules disciplinaires, les fers, les chaînes, les coups. Donc finalement, les gardiens sont aussi bien perçus comme d'éventuels relais de projets d'amélioration des conditions de détention que éventuellement un des facteurs de problématique de l'espace carcéral.
Mais alors, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit du projet de transformer les détenus, qui est le projet de la prison ?
Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est derrière l'apparent désordre, il y a des logiques de placement. Il y a une coproduction de l'espace de la part des détenus et des gardiens suivant un registre normatif informel. Ces normes, elles vont structurer le quotidien de la prison. Elles vont permettre de connaître les détenus, d'organiser la détention, de surveiller, de pacifier aussi. Parce que finalement, si on adhère à ces normes, on peut espérer avoir certains privilèges plutôt que chercher à se révolter, quelles que soient les contraintes, la pénurie, la promiscuité. Donc il ne faut vraiment pas ignorer, j'insiste, la violence, mais il faut se dire que ce gouvernement de la prison, dans ses logiques formelles et informelles, il sécrète des normes qui vont, auxquelles on est incité à adhérer à des fins de subsistance. Donc en fait, ignorer ces normes conduirait dans l'impasse tout projet sur la prison.